Bonjour et merci d'écouter CFM Radio, c'est Jacques et nous sommes ensemble jusqu'à la demi. Les arts visuels s'invitent au Festival de Cordes-sur-Ciel pour ces deux derniers jours et même d'une certaine manière le sport aussi. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio avec nous la compositrice qui est en résidence cette année pour le Festival de Cordes-sur-Ciel, c'est madame Elena Rykova. Hi Elena.
Hello.
Nice to meet you. And also to welcome you here in the studio of Cord, native from Russia. You are living, learning and teaching in the US at Harvard University in the field of music composition. Vous êtes d'origine russe, vous vivez, étudiez et enseignez la composition musicale à l'université d'Harvard aux États-Unis. Également avec nous, monsieur Michel Van Zelle, qui est réalisateur d'essais cinématographiques. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel, lui, nous vient plus ou moins de Suisse en passant par la Provence, c'est ça Michel?
C'est ça, c'est effectivement, il y a un jumelage entre Nyons, le pays du miel et de l'olive, ouais. Et Nyon, au bord du lac Léman, d'accord. Où se trouve pas très loin Jean-Luc Godard.
Ok, bon, on va parler de cinéma, on va parler de films, on va parler de musique aussi, et même on va parler d'art plastique d'une certaine manière. En tout cas, vous, Michel, votre film documentaire Les Aventures de Histoire du Soldat sera projeté au château de Mérague demain soir pour la soirée de clôture du festival, un film qui revient sur une des œuvres majeures d'Igor Stravinsky. Elena Rykova, vous êtes la compositrice en résidence du Festival de Cordes-sur-Ciel cette année. En quoi ça consiste? You are the composer of the year for the Festival of Cordes-sur-Ciel. What does it mean and what have you done in fact?
Well, we are doing so many things. It's a very intense and very exciting time for me. Mm-hmm. The first week in court, I was teaching in the academy, in the first CL Academy with Ensemble Linie, and it was an absolutely incredible experience for me. And then the festival and the academy overlapped a little bit, and we started the festival, the connection between the academy and the festival with my workshop on Sunday, where I sort of raised the curtain to explain people how do I compose element by element. And then since Monday, there are a lot of concerts and rehearsals. Different pieces of mine are being performed. And tomorrow there will be, in fact, the screening of the film by Ayal Adamov, to which I wrote music in the past 2-3 months.
Elena qui nous explique donc ce qu'elle a fait à Cordes-sur-Ciel en tant que compositrice en résidence. Elle a participé à la toute nouvelle académie, à la Ciel Académie, qui a eu lieu la semaine dernière en présence de nombreux compositeurs, à qui elle a expliqué un peu comment elle compose ses musiques. Elle a participé aussi à pas mal d'ateliers, de masterclass. Elle a participé aussi à des concerts, des répétitions. Et puis demain soir aussi, un film pour lequel elle a composé la musique sera projeté au château de Mérague à partir de 20h30. Comment est-ce qu'on apprend à composer? How do we learn to compose music?
I guess there are several traditions, and the most traditional one is to just go sort of chronological and start more or less early, though there are of course people that start later, and it also depends on the style. I'm talking about classical composition, and of course there are a lot of songwriters that of course also probably need some theory knowledge before that, but the most important is, I guess, just the desire to compose and the passion. And if you have it, then there will be no difficulties to go through the theoretic and some obtaining the necessary background and knowledge to go and to start exploring and to find your own universe, music universe.
Je demandais à Elena comment est-ce qu'on apprend à composer de la musique. Alors elle nous dit qu'il faut surtout avoir le désir de composer, la passion aussi pour ce chant-là. Il y a une petite théorie à avoir, mais après chacun laisse exprimer ses émotions, ses envies, et que bon, il est quand même nécessaire d'avoir un tout petit background, une toute petite expérience. I would like also to know, votre travail musical est autant classique que contemporain. Qu'est-ce qui vous inspire? Your musical creation is in the field of classical music, but also in the contemporary part, I think, as I heard. What is inspiring you?
I guess I'm making new music, experimental music, which is traditionally derives from avant-garde music, and then before that, classical music. I mean, I'm skipping a lot of a lot of stages. Like we can talk about surrealism and spectralism and all of those incredible things that happened in the 20th century, especially that was very important for new music today. And of course, certain influences I get is from another type of music that I like: pop music, jazz. Rock, whatever. I like, I'm listening all kind of music, and I don't really have favorites, actually. So, and of course, improvisation. Improvisation is another very, very important trend for me. And I like improvising myself, especially free improvisation, improvisation with objects, objects and instruments, preparing instruments with objects and searching for new sounds that haven't been there before, and then trying to translate them on paper, which you can see some example of in the Museum of Modern Contemporary Art at Court.
Yeah, it's the exhibition Atlas.
Yes, exactly.
Tell me more about that, about Atlas.
Yes, so in this exhibition, several scores of mine are presented. I started drawing my scores by hand in 2015. This is like a combination of painting, drawing, and traditional notation. Sometimes there are some sort of symbols, technical drawings, inspirational drawings. So all of them together, depending on the piece and the idea of the piece, they form a certain image. Of course, there is a precision behind that, the music guiding the image, so that musicians understand what to do at every second of time. But also there is a space to imagine and space to interpret, which is very important for me.
Alors je demandais un peu à Elena de nous expliquer qu'est-ce qui l'inspirait pour ses compositions musicales. Alors elle nous a parlé des différents courants artistiques majeurs du XXe siècle, comme le surréalisme, mais aussi que toutes les musiques, hein, qu'elles soient jazz, pop, électro, l'inspiraient aussi. Beaucoup d'improvisations aussi font partie de son champ d'activité. Elle aime beaucoup improviser, chercher des sons nouveaux en improvisant avec des objets, en mélangeant ces objets avec des instruments. Et puis elle a commencé à parler d'une exposition qui est à voir actuellement au Musée d'Art Moderne et Contemporain qui s'intitule Atlas. Et c'est une exposition qu'elle propose ici le temps du festival. Une exposition où c'est à la fois de la peinture, des dessins, des techniques d'inspiration aussi qui lui viennent comme ça. Et puis ça part de la notation traditionnelle d'une portée musicale. Hein, et à partir de là, elle laisse son imagination et puis notre imagination aussi, en tout cas de ceux qui viennent regarder cette exposition là, travailler. Donc c'est l'exposition Atlas, et c'est à voir actuellement au Musée d'Art Contemporain de Cordes-sur-Ciel. L'aspect visuel semble avoir une place importante dans votre travail. The visual part seems to be very important in your work. Why?
I guess internally, or also in my background, I was a dancer at some point, not a professional, but I was dancing a lot. Also, I was a classical piano player, and we were talking a lot about the gesture, about the body, about the connection between sound and gesture and touch. And all of that I internalized and brought to my compositional practice. I guess I think very much visually, which you can see in the scores as well. So whenever I'm composing, I'm first imagining how the musicians are on stage. Are they close? Are they not? How do they move? Do they need some certain space? And then that is where the map comes in, and the geography. So I map down every single object and instrument on stage. I position everything, and then I start to compose music.
Oh yeah. Avant, elle dansait, elle a joué du piano classique, et à chaque fois qu'elle imagine une œuvre, elle imagine déjà à quoi pourraient ressembler les musiciens sur scène, quelle serait leur distance, où est-ce qu'ils seraient positionnés. Donc c'est ce côté, on va dire, visuel a une place vraiment importante dans ses compositions. À la Maison Font-Pérouse, à 18h, là aujourd'hui, Elena, il sera question du lien entre musique et sport. Et pour cela, vous allez installer une table de ping-pong à 6 p.m. today. You will set a ping-pong table for a musical performance, The Minor of Galadriel. Could you tell us what it's about?
Wow. So The Mirror of Galadriel is a performance that is positioned right between the music and visual art. It embodies the bath. And so the two performers, they interact on both sides of the table without words through objects, which are pine cones, and the table, the surface of the table. So there are sort of all sorts of different sounds that they make with the hands, getting back to the touch, and also searching for the sounds. And there is a game of reflection between the two of them. So the idea of the mirror is in the interaction between the performers themselves, but also for the public. The piece itself becomes a mirror to imagine and to bring the meaning that is already inside themselves. So it is about the connection between people, connection between nature, but also it's about the sound that connects all of that and sensitivity around it and imagination.
Je lui parlais de la performance qui aura lieu tout à l'heure, c'est à 18h hein, à la maison Font Pérouse de Cordes-sur-Ciel, où il y a une table de ping-pong qui sera installée. C'est une performance qu'elle a, elle a créée il y a plusieurs années déjà, qui s'appelle le miroir de Galadriel. Et cette idée de miroir, en fait, c'est pour être à la fois entre la musique et de l'art visuel. Il y aura deux personnes qui vont interagir autour de la table, de cette table de ping-pong. Et donc, il y a des sons qui vont être créés, que ce soit à travers les boules, à travers les sons en frottant la table et tout cela. Va créer des sons. Et donc, il y a aussi l'interaction avec le public qui sera présent, qui sera dans la pièce. Et tout cela aussi va générer une certaine ambiance, un certain son. Donc, c'est un côté un peu performance musicale contemporaine. Donc, c'est vraiment à découvrir à 18h à la maison Font Pérouse de Cordes-sur-Ciel. Et Antoine Péker, it's already set up for the performance. Antoine Péker, le directeur artistique, il a hâte de participer à cette expérience, le miroir de Galadriel.
CFM Cordes. Trois lettres. Un esprit, le rock.
Michel, tu écoutes comme ça tout ce côté visuel que fait Elena Rykova. Il y a une petite génération qui vous sépare. Comment est-ce que toi, tu vois ce travail contemporain dans la musique aujourd'hui?
J'irais même qu'il y a plusieurs générations. Elena est dans la lignée de Stravinsky.
Oui.
Directement. Stravinsky, lorsqu'il entreprenait des œuvres, au départ, sa partition, il souhaitait qu'elle tienne, qu'elle soit solide. Donc, à ses yeux, il fallait qu'elle soit calligraphique. S'il n'y avait pas le dessin à l'intérieur de la partition, c'était une partition à mettre à la poubelle. Et en même temps, cette génération, elle est née en 1913, on prend le Sacre du printemps, qui est l'œuvre majeure à ce moment-là, où il y a en même temps le cubisme.
Oui.
Et la conception de Stravinsky était très proche de cette notion, justement, de faire s'enchevêtrer à la fois les formes, donc visuelles. Pour lui, la musique, si on ne voyait pas les choses, il y avait quelque chose qui manquait. C'était indispensable que l'œil écoute ça. C'était une partie indéniable chez l'œuvre de Stravinsky. Et en même temps, il s'est imprégné d'autres événements qui, comme Elena le dit, elle s'inspire du surréalisme. Mais lorsqu'il est arrivé en Suisse pour écrire avec Ramu « Histoire du soldat » à Zurich, au cabaret Voltaire, il y avait le mouvement Dada qui se mettait en place avec Christian Zara. Mm. Et c'était le ragtime. Donc il a écouté à la fois le jazz arrivé des États-Unis, il voyait le cubisme, il entendait les nouveautés qui se faisaient en Suisse, et tout ça était pour lui une façon de mixer tous ces apports qui étaient là. Dans des conditions qui étaient très difficiles, puisque c'était la guerre de 14-18, et qu'en fin de compte, la Suisse lui a donné la possibilité de prolonger son travail qui était, au départ, fait sur des inspirations strictement russes. Hein, tout ce qu'il utilisait, que ce soit dans L'Oiseau de Feu, Petrouchka, c'était d'abord des histoires russes.
Russes d'abord, ouais.
Et en même temps, quand il a travaillé avec Louis-Ferdinand Ramu, il a pris des contes d'Afanassiev. C'était un conteur que beaucoup de Russes lisaient. Je ne sais pas si Elena a lu ce conteur russe. Et dedans, il y avait plusieurs histoires. Et quand il a composé « Histoire du soldat » avec Ramu, il a commencé par faire une expérience avec ce conteur russe. Ça a été l'œuvre « Renard ». Et l'œuvre « Renard », ensuite, a pu permettre à Stravinsky de composer alors avec un complice supplémentaire qui a été Ernest Ansermet, le grand chef d'orchestre russe, cette œuvre à trois mains d'une certaine façon. Il y avait à la fois le compositeur, il y avait l'écrivain poète et il y avait le chef d'orchestre.
Donc aujourd'hui, quand on va dans un concert, on va dire, de musiques actuelles, je dis n'importe quoi, Stromae, Soprano, on voit des écrans avec plein de choses qui défilent plus ou moins artistiques. On a l'impression que c'est très contemporain, que c'est né d'aujourd'hui. Mais en fait, tu es en train de nous expliquer que ça vient de plus loin que ça encore.
Bien sûr, puisque même l'œuvre « Histoire du soldat », quand on voit le livret, il est écrit dessus « Parler, jouer, danser ». Et on sait que Stravinsky travaillait avec les ballets russes et que pour lui, il était nécessaire de mêler ces trois choses. Il y avait la voix, il y avait le jeu et il y avait surtout ce que dit Charles Dutoit, chef d'orchestre qui a dirigé l'œuvre et qui a connu Stravinsky, dit que c'est une œuvre éminemment dansée. Elle est d'abord faite pour l'œil.
Le mouvement aussi.
Comment ?
Je dis le mouvement aussi.
Le mouvement, bien sûr. Mmh. Oui, c'est indispensable. Et il est allé même encore plus loin avec Ramu, comme il voulait faire une œuvre qui soit une espèce d'osmose entre les apports de ce qu'il découvrait en Suisse et ses connaissances de ce qu'il avait fait de la tradition russe. Et il a demandé à Ramu d'ouvrir le livret avec un petit texte. Et Ramu a écrit « J'étais russe, la musique serait russe ». Stravinsky était vaudois et la musique serait vaudoise. Donc chacun a amené son apport personnel pour faire en sorte que cette musique soit à la fois née d'une écriture qui était l'écriture de Suisse romande, donc du français d'une certaine manière, et puis qu'en même temps il y ait la tradition locale de cette région particulière de la Suisse au bord du lac Léman, qui est une musique de fête foraine, où il y a beaucoup d'événements qui se passent autour de ces fêtes, ces jeux. Et donc toute la conception de l'œuvre a été faite avec les 7 musiciens, donc 3 comédiens et une danseuse qui à l'époque était la femme de Georges Pitoreff, un metteur en scène très très connu qui travaillait en Suisse, pour qu'elle soit une représentation de tréteau itinérant. Il fallait aller de village en village, il fallait présenter cette œuvre de telle sorte qu'elle soit en liaison directe avec les villageois, avec les gens qui n'avaient pas coutume d'entendre de la musique et de voir s'exprimer des ballets et des œuvres autour de ça. Mais c'était aussi le contexte de la guerre qui faisait qu'il y avait des difficultés à monter des spectacles.
Ce qu'on appelle aujourd'hui de la médiation culturelle en quelque sorte, quoi.
Tout à fait.
Alors, Michel, tu as commencé à nous parler un tout petit peu du personnage d'Igor Stravinsky. J'aimerais qu'on reparte presque au début pour une biographie un peu résumée sur ce compositeur d'origine russe. Je dis d'origine parce que il est pas forcément resté en Russie tout le temps.
Non, du tout. En fin de compte, il est arrivé en Suisse pour la première fois puisque les Russes qui avaient des moyens venaient souvent prendre les eaux ou venir se reposer en Suisse.
Donc, pourquoi tu parles au passé?
Ça n'a pas changé. C'est pas si tous les Russes sont encore en Suisse, c'est possible. Pour d'autres raisons, peut-être, si on sait que les banques suisses accueillent assez facilement des moyens financiers qui peuvent pas transiter ailleurs. Mais donc, à partir de 1910, sa femme étant d'une santé fragile, elle avait besoin aussi de venir en Suisse. Et puis, il avait des enfants, il a eu 4 enfants. Et à ce compte-là, il avait besoin d'avoir avec lui des soutiens autour de lui. Et la chance qu'il a eue quand il est arrivé en 1910, c'est de rencontrer le chef d'orchestre Ernest Ansermet, qu'il a accueilli tout de suite à côté de chez lui, à Clarens. Clarens, c'est un petit village qui était entre Lausanne et Montreux, si on situe un peu sur le bord du lac. Et là, il a composé ses œuvres. Parce qu'on croit que c'est en Russie, que ce soit Petrouchka, que ce soit le Sacre du Printemps et Nos.
Non, c'est en Suisse.
C'est en Suisse. Et Nos, dans la version de 1917, s'appelait Nos villageoise. Et c'est Ramu qui en avait écrit le texte. Donc il a rencontré en Ramu un interlocuteur privilégié. Et comme il avait apporté toute la tradition russe en Suisse, je crois qu'il a essayé de faire une espèce de point d'orgue avec Histoire du soldat. Parce que après, ça sera Histoire du soldat, donc 1918, et en 1920, pour Stravinsky, c'est le néoclassicisme qui démarre. Donc, je pense que le lien qu'il a fait entre la Russie et la Suisse, s'il n'avait pas rencontré Ramu, qui était un interlocuteur privilégié sur le plan de la langue française, et puis s'il n'avait pas rencontré le chef d'orchestre Ernest Ansermet, qui a dirigé, disait-il, il l'a pas toujours dit, mais c'était pour lui le meilleur chef d'orchestre qui a réussi à traduire son œuvre.
Donc pour vous, l'histoire du soldat, donc cette œuvre de Stravinsky, est majeure et particulière, car elle marque presque un tournant dans sa carrière.
Dans sa carrière, tout à fait, tout à fait.
Pourquoi vous êtes tant intéressé à Stravinsky après La Callas, Jean Genet et Giacometti? Qu'est-ce qui vous a marqué à proposer ce film documentaire sur Stravinsky? Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de particulier, d'important que vous souhaitez transmettre par celui-ci?
Bah, il se trouve que pas seulement la télévision suisse, mais la télévision française fonctionne avec commémoration, célébration et centenaire. Donc il se trouvait que c'était 2018 et que c'était le centenaire de la création de l'œuvre au Théâtre de Lausanne. Donc la Suisse a demandé tout de suite à ce que on puisse, puisque ça n'avait jamais été fait, faire un travail en profondeur sur comment cette œuvre était née en Suisse. Et c'est à cette occasion qu'Arte est venu se joindre à la télévision suisse romande pour que ce projet puisse voir le jour. Mon souci, ça a été à la fois d'essayer de restituer la situation dans laquelle l'œuvre avait vu le jour,
un peu.
Mm-hmm. Et en même temps de voir comment elle pouvait être reprise par Alex Solé, un Espagnol, qui en a fait une traduction personnelle, une vision différente. Donc j'ai voulu mêler ces choses, et j'ai même mis un trait d'union avec Jean-Luc Godard, qui lui-même s'inspire de cette œuvre. Elle était pour lui un repère dans ses souvenirs d'enfant. Pour les Suisses, l'œuvre n'a été jouée, alors ça c'est un événement exceptionnel, qu'une seule fois. Donc en septembre 1918, pour quelle raison? Pour trois raisons. Il y avait la grippe espagnole, donc toute l'équipe du théâtre, de la musicien, ont été quasiment bloqués au lit, même Stravinsky est resté pendant plus d'un mois couché. Sa femme Catherine s'occupait de lui avec des bouillons du Borge et tout ça, pour essayer de le reconstituer. Bien qu'il disait toujours « je suis d'une mauvaise santé, mais de fer ». Et en même temps, à la fois Ramu a été touché par la grippe espagnole, s'en est tiré, enfermé aussi, tous les musiciens et les comédiens. C'était véritablement un désastre que l'on connaît pour tout l'ensemble de la Terre, qui a vécu le passage de la grippe espagnole comme un véritable carnage. Et il y avait aussi la guerre de 14-18. C'est arrivé au moment de l'armistice. Donc ça a interrompu aussi toutes les activités. Et pour la première fois, ce qui est très rare en Suisse, puisqu'il n'y a jamais eu de grève, on sait que c'est un pays où effectivement la grève est bannie. Dès le départ, c'est le pays de la paix du travail. Eh ben, il y avait une grande grève des cheminots qui a entravé complètement la représentation de cette œuvre. Donc elle a été jouée une seule fois, le 29 septembre 1918, et puis après tout le monde a disparu.
Et puis, c'était,
Et puis après il a fallu attendre, alors donc la reprise avec Markovitch et Jean Cocteau, donc il y a eu à nouveau des représentations, et puis à Paris elle a été donnée aux Champs-Élysées, voilà. Donc c'est aussi un concours de circonstances qu'avait pressenti d'une certaine manière Ramu, qui venait d'écrire en 1917 un ouvrage que je vous recommande. On trouve pas beaucoup Ramu en France à lire, mais ça s'appelle « Le règne de l'esprit malin ». Et c'est déjà, puisque c'est Faustien l'histoire du soldat, hein, bon c'est un pacte avec le diable, dans cet ouvrage, il y a déjà la prémonition extraordinaire de la grippe espagnole et de l'œuvre avec Stravinsky.
Eh bien, toutes ces choses, on peut les apprendre et les découvrir au travers du film documentaire donc que vous nous proposez à voir demain soir au château de Mérague. C'est à partir de 20h30, les aventures de Histoire du soldat, une œuvre d'Igor Stravinsky sur laquelle vous êtes penché, Michel Van Zele. Et vous aussi, Elena, il y a un film pour lequel vous avez participé qui va être projeté demain. C'est In the Land of the Whispering Stars, sur la terre des étoiles qui murmurent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce film? What is? Could you tell us a few words about this movie, In the Land of Whispering Stars? You are just a musical producer, composer, or?
Yes, I composed the music for this documentary. This is a documentary by Ayal Adamov, a Russian film director from Yakutia, and in fact, this is a documentary about a remote village in Yakutia where Evenki people live. And that's very, very interesting. The documentary almost doesn't have any words in it, just the scenes of the landscapes, of how people live, of inside spaces and outside spaces, and these animals and the white landscape full of snow, because this is very close to where the lowest temperature in Russia was registered, minus 52 degrees Celsius.
Oof. All right.
it's a very, very beautiful film. I was very much inspired by it. And also Ayal, he gave me freedom to create whatever I want in this 15 minutes. I took it all. I wrote the music for double bell horn, double bell trumpet, and tuba, and also with electronics and objects, I created music that he also liked at the end. So we're very happy because I'm pretty sure it's the first screening of the film in court.
Okay.
And the next one will be in Brazil, in Sao Paulo, in August, but this is the first one.
Ah ben c'est une avant-première à laquelle on a droit avec In the Land of Whispering Stars, un film de Yael Adamov, un réalisateur russe qui a demandé à Elena de composer la musique de ce film qui est muet, qui nous amène dans un village russe, un des villages où on a enregistré la température la plus basse de tous les temps en Russie, moins 52 degrés. Un film muet donc qui nous permet de voir des paysages, des scènes de vie dans ce village-là. Et puis elle a composé toute la musique originale du film qui sera projetée pour la première fois ici à Cordes-sur-Ciel et dans quelques semaines ce sera à Sao Paulo au Brésil. Je vous remercie tous les deux, on arrive au terme de cette émission, je vous souhaite de passer un bon moment ici à Cordes-sur-Ciel et puis de passer un très bon festival, le festival de Cordes-sur-Ciel qui se termine demain soir au château de Merac. Thank you both for coming in the studio of CFM Radio, have a good festival and a good day, ciao. Thank you.